Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Nous sommes cette semaine à Visa pour l'image, le festival international du photojournalisme de Perpignan. Et nous sommes en compagnie de Samuel Bollendorf, visador du web documentaire pour le Grand Incendie.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Samuel Bollendorf, tu es donc lauréat 2014 du Visa d'or du web documentaire. Cette distinction, je l'ai dit dans la première partie, arrive tardivement parce que tu es l'auteur et même surtout le co-auteur en général de 5 œuvres documentaires sur le web. La première, on l'a évoqué, Voyage au bout du charbon, qui est co-signée avec Abel Segretin, qui a travaillé à RFI également, remonte à 2008. C'est assez ancien pour Internet, c'est encore plus ancien pour le web documentaire. C'est une œuvre qui raconte l'enquête d'un journaliste en Chine sur les conditions de travail des mineurs. Elle a la particularité d'être extrêmement interactive, c'est-à-dire qu'on a des choix en permanence sur ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Elle a fait date dans l'histoire du web documentaire et finalement on a peut-être l'impression, 6 ans plus tard, qu'elle n'a pas tant inspiré que ça, parce que tu vas me confirmer ou infirmer ce que je dis, le web documentaire est encore assez rarement interactif, il joue assez rarement sur les possibilités d'Internet, il est souvent délinéarisé, mais on a rarement autant joué sur la possibilité de faire des choix, etc. Je le signale, tu me regardes en souriant, je le signale, il y a eu une mention spéciale du jury également pour Fort McMoney, donc on y avait consacré une émission déjà à Fort McMoney, ce très beau web documentaire qui est également un jeu signé David Dufresne et Philippe Brault. Est-ce que tu confirmes cette idée ou pas, que le web documentaire est, finalement joue encore assez peu sur l'interactivité? Vous étiez très très précurseur avec Voyage au bout du charbon.
D'abord, je dirais que j'ai pas le sentiment d'avoir inventé beaucoup, parce qu'il y a quand même des web documentaires qui existent avant Voyage au bout du charbon. Il y a notamment Thanatorama ou La Cité des Mortes qui sont quand même des projets qui étaient assez interactifs. La particularité de Voyage au bout du charbon, c'est que comme je venais de la presse, du photojournalisme, j'ai proposé au monde.fr de diffuser ce projet. Et c'est là la particularité, c'est que c'est la première fois qu'il y avait un web documentaire sur un site de presse généraliste. Et je pense que c'est ce qui a fait son succès notamment. Et puis je pense que le photojournalisme en crise a vu là une voie possible pour un renouveau en termes d'écriture et de production. Bon, finalement, on le voit aujourd'hui, je crois que Voyage au bout du charbon, si on comptait combien ça coûte, c'est le 10e d'un gros documentaire actuel. C'est très cher de faire des web documentaires, c'est aussi cher, voire plus, que de réaliser des documentaires classiques, puisqu'on rentre dans des schémas de production qui sont classiques, mais auxquels on doit ajouter l'écriture interactive, le développement web, et qui est très chronophage et qui demande évidemment du coup un coût supplémentaire. Et donc finalement les photographes qui se sont engagés dans le web documentaire ont dû devenir des réalisateurs. Donc tous n'ont pas d'abord fait ce choix ou souhaité le faire. Ça c'est un des éléments. Et puis le second élément, c'est qu'on le voit, hein, la plupart des producteurs sont des structures audiovisuelles publiques. C'est France Télévisions, Nouvelles Écritures, c'est Arte, c'est éventuellement Radio France. Et donc, il n'y a pas tant d'acteurs que ça, et ils peuvent pas produire des dizaines et des dizaines de projets par an, et en plus, ce sont pas tous des projets émanant du journalisme. Il peut y avoir des projets plus fictionnels. Donc, tout ça fait que le web documentaire, c'est quand même aussi des projets assez exceptionnels, ou alors, puisqu'on a mis un peu tout dans le web documentaire, c'est des projets, disons plus simplement, multimédia, c'est-à-dire des sites qui vont mêler de la vidéo, de la photo, du son, du graphisme et du texte, mais éventuellement dans quelque chose qui est plus délinéarisé et moins scénarisé. Donc effectivement, il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même de plus en plus, ou en tout cas, il y en a de plus en plus de bonne qualité.
Et toi-même, tu as le sentiment d'être devenu réalisateur. Je sais que tu utilises beaucoup la vidéo, mais j'ai le sentiment que tu l'utilises d'une manière qui est presque de la photographie vidéo, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans tes œuvres de plans fixes qui font vraiment penser à de la photo en fait.
C'est compliqué. Le mot que j'utilise, effectivement, ça dépend de mon interlocuteur, mais disons que je suis photographe réalisateur. Et j'ai en tout cas absolument pas peur d'utiliser le mot réalisateur, parce que c'est une réalité. Mais ma question, elle n'est pas de devenir réalisateur de documentaires classiques.
Tu es resté photographe d'ailleurs.
Oui, je continue à faire de la photo. J'ai réalisé des documentaires linéaires vidéo avant d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de réfléchir à la façon dont la photographie peut devenir audiovisuelle. Et je pense que la question majeure aujourd'hui, elle est dans les systèmes de diffusion, que sont les tablettes, les ordinateurs et tous ces nouveaux supports. La photographie a une place immense à jouer, d'abord parce qu'elle fait... Elle fait maquette et support, mais qu'en plus, elle a une captation instantanée de l'attention d'un public qui souvent n'est pas engagé dans un projet. Il ne va pas au cinéma, il n'allume pas sa télé en se mettant dans un canapé. Il va surfer, tomber par hasard, regarder quelque chose sur sa tablette alors qu'il n'est peut-être pas acquis à la consultation d'un projet long. Donc, il y a une nécessité de captation de l'attention de façon instantanée. Et là, la photographie a un vrai pouvoir. Mais évidemment, sur ces dispositifs, on a besoin d'avoir une photographie qui est audiovisuelle. Et je pense que les photographes se fourvoient. Et c'est ma conviction. Hein. Depuis qu'ils ont des appareils photo numériques qui font des vidéos, ils ont un bouton REC. Et ils ont l'impression que ça
pour enregistrer.
Et ils ont l'impression que ça fait d'eux des vidéastes. Et moi, je suis convaincu que je suis pas un bon vidéaste. Je suis un bon photographe, mais c'est pas mon métier d'être vidéaste. Et je peux réaliser une vidéo qui peut être forte éventuellement. Mais quand je suis sur le terrain, je vais justement réaliser une vidéo brute. Je vous dirais presque une vidéo amateur, mais je vais pas avoir une structure de production, un monteur, etc. Je vais pas réaliser un film construit. Et donc, je pense que le photographe, il doit se saisir de cette question de l'audiovisuel, mais en restant photographe. Et il y a une telle puissance dans le dialogue entre l'image fixe et le son que c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut chercher. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que le son a toujours une place très forte dans mes projets de photographe.
Nous sommes à Visa pour l'image, qui est le festival du photojournalisme, de la photo fixe. Et quand on voit ton usage de la vidéo, qui est une sorte de vidéo-photographie, on se demande pourquoi aujourd'hui, finalement, ça n'est pas un usage qu'on voit plus souvent. Il y a chaque soir à Visa pour l'image des projections de photographies qui sont très belles, qui sont des grands moments du festival. Et c'est vrai qu'on pourrait voir, pendant ces projections, des sortes de vidéos-photographies, un petit peu comme toi, tu les as utilisées, comme l'ont utilisé d'ailleurs aussi d'autres photographes dans des web-documentaires.
Mais ça, je pense qu'il faudrait demander à Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l'image. L'année dernière, je crois qu'il a fait un appel à contribution. Et je crois qu'il a tellement pas reçu de matériel suffisamment bon qu'il a décidé de ne pas faire de projection de vidéo. Donc, c'est quand même là le marqueur aussi de la difficulté des photographes à passer ce cap de l'audiovisuel. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas le faire en passant la marge de la vidéo, mais plutôt en passant la marge du dialogue avec le son.
Revenons à ton travail. J'ai cité, bien sûr, Voyage au bout du charbon. Tu as signé 5 web-documentaires, c'est ça, qui ont tous en commun de traiter de phénomènes sociaux souvent impressionnants, souvent mal ou peu ou pas assez connus. Il y a le suicide lié au travail, évidemment, avec ton dernier web-documentaire. Il y a également l'obésité avec The Big Issue, c'est ça. Il y a le mal logement aussi avec À l'abri de rien, qui est un des web-documentaires que personnellement je préfère et qu'on aime beaucoup à l'Atelier des médias, qu'on montre souvent en référence. Et ils ont tous aussi la particularité d'être souvent très très simples dans leur forme, de très bien utiliser les possibilités de l'internet, du web, mais en même temps de rester assez simple, pas trop compliqué.
Je pense que je suis pas un geek d'abord et donc j'utilise l'internet comme n'importe qui. Disons que j'utilise beaucoup, mais je suis pas au fait de la dernière façon de l'utiliser. Et donc je pense que ça, c'est sûrement une arme pour essayer de faire des projets qui soient le plus accessibles possible. Je pense que c'est formidable l'internet, mais qu'il faut s'en saisir comme d'un outil pour continuer à toucher le plus de gens possible et le plus large public. Ça veut dire des projets qui soit limpide. Moi, ça m'intéresse pas de faire des sujets pour faire du web. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur le web pour pouvoir porter un sujet. Et d'ailleurs, je vais jamais uniquement sur le web. C'est vraiment une conviction que le matériel photographique de base du web documentaire, il doit pouvoir être assez fort. Je dois pouvoir le revendiquer comme photographe pour pouvoir en faire un livre, une exposition, l'utiliser pour des portfolios dans la presse, etc. Et c'est l'ensemble de ces diffusions et de ces mises en œuvre qui, se servant l'une de l'autre, permet de toucher un large public et d'avoir le plus d'impact possible sur des sujets qui sont souvent effectivement peu entendus.
Justement, dans un mot sur ton choix de sujet, peut-être la relation avec le choix d'en faire des web documentaires, de les diffuser sur Internet.
J'ai toujours travaillé sur des sujets effectivement sociaux lourds, où je me suis toujours posé la question de comment faire pour donner la parole, en fait. Peut-être parce que je viens d'une famille de psychanalystes, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de, alors que je fais de la photographie, de pouvoir donner la parole aux gens. Donc j'ai aussi, avant même de faire des web documentaires, beaucoup travaillé sur le texte et le dialogue texte-photographie dans mes projets, que ce soit sur le travail sur le sida ou sur la Chine. Et voilà, j'essaye de donner la parole à des gens qui sont pas forcément entendus. Alors on est là au cœur du sujet quand on parle de ces immolations, mais sur la précarité du logement en France, c'est 3,6 millions d'individus qui vivent dans une précarité extrême, dans un pays qui est censé être un pays riche. C'est des gens qui n'ont pas la parole. Et c'était important pour moi d'essayer de trouver un dispositif qui leur donne une vraie place. Alors, j'ai ma capacité de photographe pour faire ça, mais c'est vrai que le dialogue avec le son, la rencontre avec Mehdi Aoudig, c'était une rencontre formidable, parce que là on se sert l'un l'autre, quoi.
Justement, on va écouter un extrait de À l'abri de rien, ce web documentaire que tu co-signes avec Mehdi Aoudig, qui est un documentariste audio. Il s'agit donc, cet extrait, du témoignage de Pierre Marchand, qui est un homme sans abri, qui raconte sa descente aux enfers. C'est un récit qu'on découvre donc dans le web documentaire en voyant un portrait, une photographie de cet homme au milieu d'un bois. Il regarde droit devant lui, debout, en imperméable, en manteau vert. Il a l'air fatigué et digne.
Pour vous expliquer comment ça a commencé en 89, quand j'ai divorcé avec mon épouse. Et moi, je suis parti à Melun, chez M. Papoin, où j'ai travaillé 15 ans avec lui. J'étais responsable de toute la fabrication du pain. Je gagnais plus de 3 000, 3 500 euros net par mois. Jamais eu de problème avec lui. Puis M. Papoin a revendu sa boulangerie à Nogent-sur-Marne pour aller reprendre une autre grosse affaire à Reims. Et puis quand le nouveau boulanger est arrivé, il a voulu tout changer. Il voulait que je fasse toujours autant d'heures, c'est-à-dire 2 heures du matin, des fois 6, 7 heures du soir. Mais le salaire diminuait pratiquement de 1 000 euros. Et je voyais bien que je me faisais avoir. Donc déjà, ça me minait le moral. En plus, j'étais crevé, fatigué, j'avais plus de vie, j'avais plus rien. J'étais devenu une machine. Ah, une vraie machine. On appuyait sur le bouton, on va au boulot. T'appuies le bouton, on va te coucher. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est là que ça commence à déraper. C'était en février 2007, juste après les fêtes de Noël, où j'étais vraiment crevé. J'étais voir le patron, j'ai dit, oui, demain c'est repos, lundi je suis pas là. C'est pas la peine, je suis pas là. Je suis pas retrouvé de travail. C'est ça le problème. J'ai pu payer mon loyer pendant 4 mois. Un jour, je suis arrivé devant ma porte, il avait changé les serrures, avec toutes mes affaires à l'intérieur. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à la rue avec ce que j'avais sur moi. Un pantalon, une veste. C'était au mois de juillet 2007. Là, ça a vraiment été la descente aux enfers. Je voulais pas dormir en ville, je voulais pas dormir sous un pont, je voulais pas dormir, je sais pas, où tout le monde me voit, surtout. Je voulais pas qu'on me voit, voilà. C'est surtout ça. Avec le peu d'argent qu'on m'avait prêté, je me suis acheté une tente, j'étais dans le bois de Vincennes. Comme ça, par hasard.
Tu as co-signé donc ce documentaire avec Mehdi Aoudig, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est un véritable travail radiophonique et photographique. Tu disais juste avant qu'on l'écoute que tu voulais donner la parole aux gens. On a entendu aussi dans la voix de Pierre Marchand qui voulait se cacher. Il y a donc ce dialogue, cette manière de recueillir le témoignage d'une manière très intime.
C'est ça qui est incroyable avec l'image fixe et le son, c'est que ça nous émancipe de beaucoup de choses. D'abord, le son n'a plus besoin de décrire puisque l'image présente le cadre. Et l'image fixe est prolongée par le son, en fait. Cet instant, cet instantané, il est prolongé par le son. Là, en l'occurrence, quatre minutes.
7 minutes. Et pendant qu'on était en train d'écouter, tu disais, c'est l'image la c'est plus longue de l'histoire de la photographie.
Non, du web.
Du web, pardon.
Non, mais enfin, je ne sais pas, mais effectivement, c'est tout l'enjeu, et encore une fois, il était de fabriquer de l'écoute et donc de ne pas être bavard en images, pour que l'attention du spectateur, elle se concentre vraiment sur cette histoire. Et donc, on a décidé de n'utiliser qu'une seule image, mais de faire un très lent zoom sur le visage de Pierre Marchand. Bon, techniquement, en fait, c'est plusieurs images parce qu'on est obligé de resserrer et d'avoir toujours assez de qualité, mais ça n'a pas grand intérêt. Mais surtout, ce qui est très fort, donc, sur ce couple image fixe et son, c'est que on a mené toutes les interviews dans ce documentaire, hein, c'est une quinzaine de 16 portraits, je crois, toutes les interviews ensemble. On connaît le pouvoir de la radio et la façon dont les gens peuvent se livrer de façon pudique, sans être vus, justement. Là où la télé, elle regarde les gens pendant qu'ils témoignent. Elle les montre, elle les expose dans leur fragilité. Et le son de la radio, il permet d'être à l'écoute de cette fragilité sans être en train de porter un regard sur les gens. Et c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, une fois qu'ils avaient recouvré leurs esprits, si je puis dire, on réalisait un portrait où ils étaient dignes et où ils pouvaient contrôler leur image. Et ce dialogue-là, il nous permettait de réaliser, d'aller très loin dans la fragilité, dans leur exposition, sans pour autant les bousculer et du coup fragiliser leur pudeur. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort dans ce dialogue.
Et ce qui me frappe dans ton travail, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur la manière de faire vivre la radio, le son tout seul sur le web, dans un univers d'images, dans un univers du visuel. Et dans beaucoup de tes œuvres, donc dans À l'abri de rien, dans Le Grand Incendie, vous proposez presque des solutions qui sont, voilà, dans Le Grand Incendie, c'est cette sinusoïde qui montre la parole, qui permet d'occuper les yeux. Là, dans À l'abri de rien, c'est cette photo fixe.
C'est vrai que ça nous permet aussi d'oser prendre le temps sur le web. On dit toujours, l'internaute, il est volatile, il va cliquer 20 secondes après, il va aller sur un autre site, il va pas être capable de regarder une vidéo, etc. Et c'est vrai que le son et l'image fixe ensemble, on peut oser ne pas bouger.
En unissant les deux médias, on arrive à lutter contre l'instantanéité, finalement.
J'ose espérer. C'est l'enjeu même du Grand Incendie. Hein. On commence avec une image fixe pendant une minute avec la voix de Philippe Torreton. Alors, c'est vrai qu'il porte très fort cette voix. C'est quelque chose qui est important pour moi, de ne pas avoir peur du public du web. Si on arrive à capter son attention et à le toucher, alors il va rentrer dans l'histoire. Et je pense réellement que il y a quelque chose pour moi, on parle beaucoup de médias participatifs. Alors, on pense beaucoup aux réseaux sociaux. Mais en fait, je pense que c'est là le cœur de la participation. C'est que on donne à voir une information avec une image fixe. On donne à entendre ce qui se passe hors champ, ce qui entoure l'image. Et en fait, le spectateur, il va les relier. Et pour les connecter, il est obligé de passer par son cerveau pour relier l'œil à l'oreille et d'utiliser son propre vocabulaire, son expérience, son imaginaire pour fabriquer la part manquante de narration. Et donc finalement, il s'engage dans l'histoire et il est affecté. Et là, c'est de la participation.
On va terminer en évoquant ton rôle dans Visa pour l'image cette année. En dehors du Visa d'or, tu as été également co-commissaire d'une exposition avec André Günther. On est loin de l'univers du web documentaire, mais on reste dans celui du web, celui de l'internet. Le nom de l'expo que vous avez proposé, c'est Amateurs Make the Front, c'est-à-dire les amateurs font la une. Et il s'agit de montrer les images amateurs qui ont fait la une depuis 2001, c'est ça ?
Depuis un peu plus de 2001, l'idée est vraiment de faire un bilan avec l'arrivée du numérique, mais tant qu'à faire une rétrospective, on s'est payé le luxe de partir de l'image de Zapruder avec l'assassinat de Kennedy, mais qui était un phénomène exceptionnel. Et effectivement, le gros de l'exposition, c'est à partir de 2004.
Et donc c'est une interrogation sur l'image amateur, le web, face peut-être à l'image professionnelle.
En fait, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est important, enfin moi ce qui m'anime en tant que photographe, c'est de me poser la question des usages. Comment le public perçoit les images? Et du coup, comment essayer de faire des images qui vont, et de mettre en place des dispositifs qui vont atteindre le public? Alors, je traiterai pas un sujet que j'ai traité il y a 10 ans, aujourd'hui, de la même façon, parce que je pense que la lecture en serait différente. Et donc, j'essaye en permanence de comprendre, de m'interroger là-dessus. Et la question de la photographie amateur, c'est une espèce de mythe qui a été élaboré au début des années 2000, où quelques médias ont imaginé que le fait que des images amateurs fassent la une de journaux comme le Washington Post ou le New York Times au moment des attentats de Londres, où il n'y avait pas d'images puisque c'était dans le métro. Et en constatant ça et en mettant en face les statistiques de vente de téléphones portables équipés d'appareils photo, des journalistes ont imaginé que c'était la fin du photojournalisme, que dorénavant les amateurs, tout le monde serait équipé d'un appareil photo et serait capable donc de réaliser l'information. Et ça, c'est un mythe qui fallait mettre à mal, parce que quand on fait cette rétrospective, on se rend compte que péniblement quand même, on rassemble une trentaine d'images qui ont vraiment fait le tour du monde et fait la une. Et donc, pendant tout ce temps-là, toutes les autres unes sont faites par des photojournalistes qui vont, eux, fabriquer des icônes, qui vont faire appel à des référents culturels qui se répètent d'ailleurs depuis des siècles, et ils font pas le même métier. Et d'ailleurs, en fait, il y a toujours eu un premier témoin, sauf qu'aujourd'hui, le premier témoin, il est capable de réaliser un document visuel. Et donc le premier témoin, il fallait qu'un journaliste aille le voir, qu'il récolte son témoignage, qu'il l'édite, qu'il vérifie, qu'il les sources, etc. Mais aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que c'est à partir d'images, mais qui vont être vérifiées, qui vont peut-être faire l'objet d'une vidéo, et donc du coup, il va falloir en faire une capture d'écran, la recadrer, etc. Et tout ce travail-là, c'est le travail des journalistes.
Parmi ces images donc exposées, il y a donc, tu l'as rappelé, l'assassinat de Kennedy, il y a des images de vidéosurveillance, dont l'attentat du 11 septembre contre le Pentagone, tu confirmes, il y a des extraits de vidéos aussi postés sur Internet, souvent des exécutions d'otages, on trouve aussi une image venant de Guinée, signée Fodé Sanikaï, qui est Mondoblog, c'est la plateforme de blogueurs que nous dirigeons à l'atelier des médias, et qui contribue aussi Fodé aux observateurs de France 24. Cette image a d'ailleurs été diffusée par l'équipe de Julien Pain. Elle montre les massacres du stade du 28 septembre en 2009 à Conakry. Ce qui est un peu paradoxal dans cette exposition, c'est la manière dont vous présentez ces images. Ce qui est étrange dans cette présentation, c'est qu'à la fois vous mettez en vedette cette production et d'une certaine manière vous la minimisez en la présentant, en disant voilà, à la louche, une petite trentaine, voilà, on vous les montre et puis c'est fini.
Non, c'est pas du tout péjoratif. L'idée était de dire les photojournalistes, la presse.
Est-ce que c'était intéressant d'abord d'opposer l'image amateur au photojournalisme finalement, y compris dans le texte de présentation?
Et c'est pas une opposition. Justement, on les oppose pas. Et c'est tout ça le mythe qui était construit, c'était que il y avait une opposition, une concurrence entre la photographie amateur et celle des photojournalistes. Or, c'est vraiment deux activités complémentaires qui n'ont pas à rivaliser. Mais quand même, ce qui nous intéressait, c'était vraiment du point de vue des photojournalistes et de ce mythe, d'aller le déconstruire. C'est-à-dire que c'est bien pratique de penser que les amateurs sont en train de tuer la profession, alors que ce qui tue la profession, c'est le fait que la presse ne produise plus. Et ça n'a rien à voir avec les amateurs. Ça a à voir avec les groupes de presse qui décident de faire des économies sur le dos des agences et des photographes. Et c'est là un vrai sujet. Et donc, nous, notre intérêt, notre envie, c'était d'aller faire un bilan et de dire, ça, c'est un faux problème. C'est pour ça qu'on l'a appelé 30 images qui n'ont pas changé la face du photojournalisme, parce que c'est justement des images qui ne changent pas la question du photojournalisme. Elle est ailleurs, la question du photojournalisme, et il ne faut pas croire que les amateurs constituent un problème.
Merci Samuel Bollendorf. Pour celles et ceux qui veulent découvrir ton travail de web documentariste et notamment Le Grand Incendie, qui est donc Visador à Visa pour l'image, qui a été, nous ne l'avons pas cité, produit par Onkytonk, c'est ça?
Oui, produit par Onkytonk, et avec donc là on l'a cité, la voix de Philippe Torreton, une création sonore de Pali Meursault, et puis Jérôme Pidou qui a fait toute l'interface graphique, et Godefroy Fouret qui a fait un travail de montage incroyable.
Et diffusé par Le Monde et France Télévisions, tu l'as rappelé au cours de l'entretien. Donc pour ceux qui veulent découvrir ce web documentaire ou découvrir tes autres œuvres, y compris ton travail de photographe, tu as un site personnel, samuel-bollendorf2l2f.com. On retrouvera un lien bien sûr vers ce site ainsi que la version longue de notre entretien sur notre site à nous, c'est-à-dire l'atelier des médias RFI. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 351 de l'Atelier des médias RFI. L'Atelier des médias, c'est un travail d'équipe. Merci à Raphaël Constant, Manon Mella, Dilette Sadaoui, Marie-Catherine Beuth et Francis Pisani pour leur implication et leur appui. Bienvenue à Raja Yahyaoui et Doulnar Jouet qui s'occupent de notre communauté arablog.org. Mon complice et ami Simon De Creuse est aux manettes. Comme toujours, il vous salue également. Merci à lui et à vous qui nous écoutez régulièrement et nous encouragez avec vos messages. Je sais que vous vous reconnaîtrez. Je profite de cette désannonce pour signaler qu'un hommage a été rendu lors de cette édition de Visa pour l'image à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, nos chers collègues assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. RFI a d'ailleurs lancé une bourse en hommage à Ghislaine et Claude. Elle récompensera chaque année un jeune journaliste et un jeune technicien. Les deux premiers lauréats ou lauréates d'ailleurs seront dévoilés à Bamako le 2 novembre prochain. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Bah, ça continue sur Internet.